Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires de femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr, de femmes. Le spatial et l'observation de la Terre sont des domaines faits d'images, de satellites et de techniques. Mais on y trouve pas seulement des passionnés de code et de géomatique. Pour ce deuxième épisode de Women in Copernicus, on rencontre Alexia Fregnaud, une jeune femme passionnée de sport qui vient du monde de l'économie et du business. Après une école de commerce et une expérience à l'étranger, où elle organise des événements pour un club de rugby, elle décide d'élargir son horizon au monde du spatial. Lors d'un stage au CNES, l'agence spatiale française, elle organise le hackathon Act in Space, un défi dans lequel des équipes se challengent pour imaginer un service ou un projet de start-up qui améliorera la vie de chacun et chacune en utilisant des données ou technologies spatiales. Et suite à cette expérience dans le monde du spatial, elle y est restée.
À la base, moi, je n'étais pas du tout spatiale. J'ai fait une école de commerce. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire et puis après je suis rentrée en école de commerce à Bordeaux. Je suis originaire de Toulouse à la base. Et en fait, au tout début, je voulais travailler dans le sport. Parce que je suis passionnée de rugby, donc je m'étais dit, je vais plutôt travailler dans le sport. Donc j'ai fait un stage en année de césure en Nouvelle-Zélande dans un club de rugby. Et puis finalement, j'ai fait un deuxième stage dans le sport en année de césure. Plutôt dans une start-up qui avait développé un logiciel pour tout ce qui est optimisation des places et de vente de places, notamment dans les lieux sportifs. Et puis en fait, à l'issue de ce stage, je me suis dit c'est bien le sport, mais pourquoi pas voir autre chose. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Agence spatiale française, donc au CNES. C'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans le spatial sur en fait l'organisation d'Act in Space, donc qui est un hackathon spatial international qui vise notamment en fait à promouvoir l'utilisation de données spatiales pour d'autres secteurs d'activité. C'était principalement le but. J'ai envie de revenir à Toulouse aussi après 4 années passées un peu à aller à droite à gauche. Et du coup, je me suis dit, le spatial, j'avais vu Thomas Pesquet aller dans l'espace, donc je m'étais dit que ça, c'était intéressant. Enfin, ça a été vraiment le déclencheur, je pense, Thomas Pesquet. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience au CNES. Il y a eu que des personnes passionnées. J'ai fait des rencontres vraiment très intéressantes. J'ai adoré mon stage. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai fini dans le spatial, parce que en fait à la fin de mon stage, j'ai travaillé chez Aerospace Valley pendant 15 jours. Ils m'avaient proposé en fait un prolongement de mon stage au CNES pour Act in Space, donc pour suivre notamment la création de start-up à la suite d'Act in Space. Et donc c'est comme ça quand j'étais à Aerospace Valley, je continuais de postuler parce que c'était un CDD de 3 mois. Donc, je continuais de postuler un petit peu à droite à gauche, mais plutôt dans tout ce qui est communication événementielle, parce que c'était un peu ma formation aussi en école de commerce. Et en fait, en postulant à une offre de chargée de communication au Technopôle de Brest, ils m'ont répondu que le poste, ils ne me prenaient pas sur ce poste-là, mais qu'ils avaient un autre poste à me proposer. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Brest en tant que chef de projet Zabbix Nord France. Donc au début, ça n'a pas forcément été très facile parce que je maîtrisais pas forcément toutes les technologies, données spatiales et qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour d'autres secteurs d'activité. Donc j'ai découvert ça au CNES et puis après dans mon travail dans les Zabbix Nord France. Je suis encore là au bout de 3 ans.
Alexia est aujourd'hui chargée de mission pour les Zabbix Nord France, l'incubateur d'entreprises de l'Agence spatiale européenne, dont le but c'est de soutenir le développement des jeunes entreprises ayant des activités liées au spatial. Elle nous raconte que oui, certains lancent des nouveaux satellites et d'autres travaillent avec les astronautes. Mais la plupart du temps, les startups qui l'accompagnent utilisent les données satellitaires pour des applications liées à notre planète.
En fait, on accompagne en moyenne 15 projets par an. Donc en fait, en rentrant dans les Habits Nord France, les projets bénéficient de 3 soutiens principaux. Donc un soutien business, un soutien financier, un soutien technique. Et après, donc il y a aussi le label Les Habits Nord France qui permet de donner un petit peu de visibilité au projet. On a pas mal de projets, par exemple, qui veulent travailler avec les astronautes, donc qui ont développé de nouveaux aliments, par exemple, qu'ils souhaitent vendre pour que Thomas Pesquet puisse se nourrir dans l'espace. Après, il y en a beaucoup qui vont travailler aussi côté environnement pour connaître, par exemple, les îlots de chaleur. Donc, on s'en rend pas compte non plus que le spatial permet de faire ce genre de choses, mais ça permet clairement après d'aménager au mieux les territoires, les villes durables, etc. Après, il y a beaucoup de tracking aussi de logistique qui permet en fait d'avoir un meilleur traçage des objets et donc d'avoir, par exemple, son colis plus rapidement, etc. Sur la santé, j'avais aussi été impressionnée parce que justement il y avait un défi ActinSpace qui était sur l'identification des zones où il pourrait y avoir plus de moustiques par exemple. Donc les zones où il y a plus d'eau, où il fait chaud, etc. Donc je m'étais dit ah bon, on peut faire ça avec des données spatiales, c'est assez incroyable. Après moi, ce que je trouve toujours impressionnant, c'est voir aussi tous les changements qu'on a pu faire sur la Terre en 30 ans et qu'on peut voir grâce aux images satellites. Mais je trouve ça assez incroyable qu'on puisse utiliser ces données-là aussi pour prendre des actions et pour essayer de changer ça.
Les entreprises qui l'accompagnent développent des innovations qui peuvent changer nos vies quotidiennes. Mais quel est le profil des personnes qui postulent à l'ESABIC? Est-ce que la diversité des entreprises créées se reflète aussi dans une diversité des personnes à la tête de ces startups?
Sur les incubés qu'on a dans les ESABIC Nord France, il y a beaucoup d'hommes. Clairement, au dernier comité de sélection, on a pris deux chefs, enfin des femmes d'entreprise sur 6. Donc c'était assez impressionnant. Sachant qu'avant, sur les 35, on va dire, entreprises accompagnées, il y avait une femme qui était la chef d'entreprise parmi toutes les entreprises. Donc, c'est globalement des hommes, globalement des ingénieurs qui ont travaillé dans le secteur spatial. Après, on a quand même, par exemple, dans l'agriculture, c'est majoritairement là des entreprises qui travaillent dans le secteur agricole et qui se sont rendues compte de la mine d'or que pouvait apporter le spatial pour leurs solutions. Donc dans ce sens-là, c'était plus des personnes techniques, mais côté agriculture, et qui se sont imprégnées des données spatiales. Mais c'est globalement des personnes qui ont au moins un bac plus 5, voire un doctorat, qui sont des hommes qui, des fois, ont déjà créé une entreprise précédemment. Voilà, globalement, c'est quand même majoritairement des hommes. Ouais.
Et dans ces secteurs de l'innovation et du business, quelle est la place de la recherche par rapport aux startups ?
Clairement, je pense que la recherche est fondamentale là-dedans. On a de plus en plus d'ailleurs de porteurs de projets qui sont des chercheurs, qui veulent créer leur entreprise en fait parce qu'ils ont pu développer une techno ou parce qu'ils ont pu développer une solution qu'ils trouvent pertinente à appliquer dans un secteur d'activité. Donc on en a de plus en plus des chercheurs qui sont plutôt tournés aussi innovation et qui veulent appliquer leur innovation dans un secteur d'activité. Donc pour moi, c'est clairement, ça va de pair avec la recherche aussi.
Alexia nous a parlé des événements qu'elle a suivis et du faible nombre de femmes porteuses de projets. On se demande donc s'il y a une volonté affichée et une stratégie de la part de l'ESABIC pour justement inciter et accompagner les femmes dans la création de start-up.
Dans ce que j'ai vu, c'était pas forcément encore quelque chose qui était mis en place. Par contre, par exemple, sur ActinSpace, si je reviens sur l'exemple d'ActinSpace, sur la création d'entreprises par des femmes, il y avait un prix donc qui était un prix entrepreneuriat féminin. Donc, si l'équipe qui constituait le groupe était composée à moitié de femmes, à moitié d'hommes ou en majorité de femmes, elle pouvait prétendre justement à un prix. Et donc ça leur permettait de gagner par exemple une certaine somme d'argent pour après pouvoir créer leur entreprise ou ce genre de choses.
Quand on parle de prix dédié aux femmes, on parle de discrimination positive, un sujet qui soulève de nombreux débats. Avec des pour, il faut rééquilibrer des inégalités systémiques et des contre. Discriminer pour combattre les discriminations, ça serait un paradoxe, un obstacle à la méritocratie. dans ces contextes-là, quel était un peu le ressenti des gens qui t'entouraient à ce moment-là?
Moi, personnellement, je trouvais ça bien parce que les années précédentes, il y avait beaucoup d'hommes, vraiment pas beaucoup de femmes. Alors, je sais pas si ça a été un effet levier du fait de ce prix-là ou pas, mais l'édition 2018, il y a eu encore plus de femmes. Donc, leur rôle, c'est vraiment qu'à un moment donné, on arrive à 50-50. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est le prix qui fait ça, mais je pense qu'on est obligé à un moment donné aussi de mettre des motivations, enfin des prix, etc., pour motiver aussi les femmes et se rendre compte qu'elles peuvent très bien le faire également, quoi. Moi, je trouve ça plutôt positif. C'est de la discrimination, mais positive. Et je pense qu'il y en a aussi besoin si on veut que ça change.
Alexia nous dit qu'à la tête des entreprises qui l'accompagnent, ou parmi les participants aux hackathons qu'elle a organisés, il y a très souvent des hommes. Est-ce un cas particulier? Pour y répondre, on est allé voir la situation en dehors de l'ESABIC. On découvre, dans une étude de l'INSEE, qu'en 2020, en France, 4 créations d'entreprises individuelles sur 10 étaient menées par des femmes, tous domaines confondus, et que la situation n'a pas beaucoup changé au cours des dernières années. Mais honnêtement, on s'entendait un plus fort déséquilibre entre hommes et femmes.
Les chiffres nous montrent que l'envie d'entreprendre n'est pas différente entre les hommes et les femmes. 82% des femmes contre 86% d'hommes de la population active ont déjà envisagé de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est donc bien dans la concrétisation de ce projet d'entrepreneuriat et non dans l'envie qu'il y a une disparité.
Et qu'en est-il des startups, les entreprises qui développent de nouvelles technologies comme celles qu'Alexia accompagne? Une autre étude démontre qu'on est bien loin de la proportion 40-60. Depuis 2008, 85% des startups françaises ont été fondées par une équipe 100% masculine, contre seulement 5% par une équipe exclusivement féminine et 10% par une équipe mixte. Et les inégalités ne s'arrêtent pas là. En termes de financement, seulement 2% des fonds sont à destination de startups féminines et en moyenne, ces entreprises reçoivent 2,5 fois moins de fonds que les projets portés par des hommes.
On pourrait penser que si les femmes sont moins présentes dans le monde des startups, c'est qu'elles proposent des activités moins rentables. Mais non, les chiffres nous montrent le contraire. 8% des entreprises qui ont à leur tête des femmes sont rentables, contre 5,7% des entreprises portées par des hommes. C'est donc pour combattre toutes ces inégalités que les prix à l'entrepreneuriat féminin, les incubateurs, les aides financières spécifiques pour les femmes et les réseaux de femmes entrepreneuses se font de plus en plus nombreux. Mais pourquoi si peu de femmes s'adressent aujourd'hui au monde des startups ?
C'est vraiment un manque de confiance en soi et une pensée qu'elles ne vont pas forcément y arriver. Elles sont peut-être plus facilement aussi mal vues et on considère toujours un petit peu que le rôle de la femme, c'est quand même de faire des enfants et de s'occuper de l'enfant à la maison au moins un certain temps. Après, les financements sont moins accordés aux femmes. C'est pas forcément facilitateur, il y a pas forcément de grands exemples quand on voit comment ça peut être difficile à des moments de réussir en étant une femme, peut-être que ça met des barrières aussi là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment toute l'image qu'on a de se sentir moins capable. En effet, les femmes que j'ai rencontrées dans les ABIC et qui sont chefs d'entreprise, elles s'en sortent très bien. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de manque de légitimité à avoir, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à changer.
Est-ce que le manque de confiance, c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi dans ta carrière?
Alors, je l'ai ressenti, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais je l'ai ressenti, je pense, parce qu'aussi je suis jeune. Et en fait, quand on m'a proposé ce poste-là, je me suis dit « Oh, mais j'y arriverai jamais, quoi ». Ça a été la première chose que je me suis dite, notamment parce que dans la fiche de poste, il y a marqué « ingénieur, doctorant » et que j'avais un diplôme d'école de commerce. Donc, je me suis dit « Mais je vais jamais y arriver, le spatial, c'est trop technique pour moi, je comprendrai jamais, je vais jamais y arriver, quoi ». C'est ma première expérience, ça me semblait insurmontable. Et après, en fait, j'ai été super bien accueillie à Brest. On m'a tout de suite fait comprendre que j'y arriverais. On m'a tout de suite expliqué aussi un petit peu comment ça fonctionnait. Je continue quand même de manquer un peu de légitimité et de confiance en moi sur certains points. Mais j'essaye de m'améliorer là-dessus. J'essaye déjà de ne pas me comparer aux autres. J'essaye de voir tout ce que j'ai fait, où j'en étais quand j'avais 18 ans, que j'ai eu mon bac et que je savais pas du tout ce que je voulais faire. et tout ce que j'ai réussi en fait à achever, parce que mine de rien, les Habits Nord France, je me rends compte que ça fonctionne plutôt bien, que j'ai des bons retours, que je suis plutôt acceptée même dans le secteur du spatial. Donc en fait, j'essaie de me poser et de me dire qu'il faut que j'arrête de toujours voir le mal et de voir ce que j'arrive pas à faire, et plutôt voir ce que j'ai réussi à faire, et puis même de mes expériences passées en dehors du spatial.
Et c'est comme ça qu'on revient sur le parcours d'Alexia, en abordant sa première expérience après l'école de commerce. Une période en Nouvelle-Zélande qui a été aussi formatrice qu'un diplôme.
En fait, la Nouvelle-Zélande, je pense, a été ce qui m'a le plus donné confiance en moi, pour le coup, parce que je doutais même de mes capacités en anglais, etc. Parce qu'on sort d'école, on ne sait pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, c'était un moyen de me tester aussi, de savoir si je voulais travailler à l'étranger, notamment, de savoir si je voulais travailler dans le sport. Donc, j'ai travaillé sur tout ce qui était tâches événementielles, tâches de communication, tâches un petit peu administratives. Et en fait, ça a été, dans l'environnement professionnel et l'environnement personnel, ça a été vraiment une grande découverte et une grande bouffée d'air de confiance. Et quand justement ma famille est venue me voir à la fin de mon séjour en Nouvelle-Zélande, et ils m'ont trouvé changée, ils m'ont dit « tu parles même en anglais comme ça, avec des gens que tu connais pas dans la rue », enfin, chose que j'aurais pas forcément faite avant. C'est aussi ça que j'essaye de me dire quand des fois je vais pas bien, je me dis « mais t'es en Nouvelle-Zélande, on t'a fait confiance alors que t'es pas ta langue maternelle », alors qu'au début c'était un peu compliqué de les comprendre, donc je me dis que aussi j'arrive à faire des choses, et de toute façon on s'habitue, on s'adapte aussi en fonction des différents, de l'environnement auquel on est confronté. C'est une super expérience. Je pense que ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et de revenir en se disant « je suis capable de faire ça, donc je suis capable de faire d'autres choses qui sont tout aussi grandes. »
Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme à la tête, entre guillemets, de Les Habits pourrait être un facilitateur pour encourager d'autres personnes, des jeunes femmes, à postuler à cet incubateur?
Alors, sur le réseau Esabic, ce que je vous ai pas mentionné, c'est que du coup, il y a 21 Esabic ou 22 Esabic maintenant en Europe. J'ai été assez impressionnée, en fait, en arrivant dans ce réseau, par le nombre de femmes qui étaient en charge des différents Esabic en Europe. Des Esabic qui marchent très bien, comme les Esabic Switzerland ou les Esabic UK, où ce sont deux femmes qui sont aux commandes, et vraiment, ce sont deux incubateurs qui marchent extrêmement bien. Donc déjà, je pense que rien que ça, ça prouve aussi, même côté ESA, qu'il y a une certaine confiance aussi et un certain développement des femmes à ces rôles-là. Après, côté ESABIC, je sais que un des derniers incubés qu'on a accepté, donc qui sont deux femmes chefs d'entreprise, elles m'ont dit aussi que c'est vrai que le fait que je sois une femme, ça les a motivées, que j'étais à leur écoute, que je comprenais aussi ce qu'elles pouvaient traverser, etc. Donc elles m'ont dit que ça avait été motivateur aussi pour postuler à Les Habits et pour être accompagnée aussi dans le cadre de Les Habits. Donc en tout cas, dans ce cadre-là, elles me l'ont dit quand elles ont postulé, en disant que ça avait été pour elles un facilitateur et que ça les avait motivées aussi.
Et avec les manques de confiance que tu disais tout à l'heure, tu t'es senti comment quand tu as dit ça?
Je me suis dit, bon, c'est que finalement, il n'y a pas de quoi avoir tant de manque de confiance que ça. Mais bon, ça reviendra quand même, ça revient assez régulièrement. Donc dans ces cas-là, je me pose et je me dis, non, mais... tu fais très bien ton travail, donc ne te pose pas trop de questions.
Alexia nous parle de la manière dont le spatial et le business peuvent se croiser et nous explique comment sa formation en école de commerce et ses expériences à l'étranger lui ont ouvert les portes de ce monde peu connu. Et c'est après ces 3 années à ce poste qu'elle nous livre son bilan.
Je trouve que le secteur spatial, même en ne venant pas du secteur spatial, c'est un secteur qui est intéressant aussi si on est curieux, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est aussi pour ça, je pense, que j'aime mon travail. Il faut être curieux de différentes possibilités avec les technos données, etc. Et puis, le côté entrepreneuriat fait aussi qu'il faut être curieux sur les personnes, sur comment ils en sont arrivés là, sur comment les accompagner, sur voilà les différents traits aussi de personnalité des différents porteurs de projets. Donc, moi, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié côté spatial et entrepreneuriat. Et je trouve que le mix justement des deux font que c'est un métier qui est vraiment passionnant, quoi.
On aura des auditrices et des auditeurs très jeunes, par exemple, qui vont passer les bacs cette année ou qui commencent maintenant la fac, qui commencent maintenant à une école de commerce. Qu'est-ce que toi, tu aimerais bien leur dire par rapport à ton parcours, par rapport à l'aérospatiale, par rapport au fait d'être une femme dans l'aérospatiale? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais leur donner pour le futur?
Ce que je pourrais dire, je pense, c'est déjà de profiter aussi des études qu'ils vont faire, de ne pas croire forcément que d'aller dans un secteur d'activité va les bloquer dans un secteur d'activité, parce que c'est toujours ce que je me suis dit aussi, en me disant qu'en faisant que tel choix déterminerait forcément ma vie entière. Donc de découvrir, de tâter le terrain, de voir ce qu'ils apprécient, ce qu'ils aimeraient faire. Parce que c'est pas évident quand on commence, quand on a le bac, de savoir ce qu'on voudrait faire 10 ans plus tard. Et puis, ne pas se dire que tout est impossible, parce qu'ils découvriront qu'au fur et à mesure de leurs expériences, de quoi ils sont capables, et que clairement, ils sont capables de beaucoup de choses.
C'est beau.
C'était Women in Copernicus Podcast, une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaël, en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio CELAB. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de semaine paire à 18h, sur CELAB, la radio sauvage.